Bonsoir à tous et bienvenue en direct dans cette nouvelle édition de Quartier Populaire. Alors qu'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a été annoncé dans la nuit du 8 avril, les peuples ont commencé à respirer un peu et les bourses mondiales à rebondir. Néanmoins, contrairement aux annonces tonitruantes de Donald Trump et de son pittoresque ministre de la guerre, le détroit d'Ormuz n'est toujours pas vraiment réouvert à l'heure où on se parle. D'innombrables bateaux sont toujours en attente, la situation est extrêmement confuse et Israël ne semble toujours pas prêt à lâcher son étreinte sur le Liban, compromettant gravement les chances d'une paix. Aujourd'hui, nous recevons Jacques Sapir, économiste, directeur de recherche à l'EHESS et professeur à l'école de guerre économique, afin d'évoquer les conséquences économiques récentes et futures de cette guerre. Bonjour Jacques.
Bonjour Aude.
Bienvenue sur notre antenne.
Merci beaucoup.
Et bonsoir Harold.
Bonsoir Aude et bonsoir Jacques.
Bonsoir.
Bien sûr, je vous rappelle le principe de quartier populaire. Vous pouvez poser vos questions en direct tout au long de la soirée. N'hésitez surtout pas à le faire. Nos modérateurs ce soir, qui sont Maxime Asseo et Antoine Biraud, nous les remonterons aussitôt et on essaiera d'en prendre le maximum parce que je sais que l'inquiétude est assez extrême encore dans notre pays à ce sujet. Alors, avant de passer, Jacques Sapir, aux conséquences économiques stricto sensu, tirons le bilan de la situation pour les États-Unis, notamment. Nous sommes à 7 semaines d'une guerre à laquelle finalement rien ne les contraignait. Et qu'est-ce que nous observons? Nous n'observons pas de changement de régime. Au contraire, même, on peut considérer que le pouvoir iranien, d'une certaine façon, même s'il est bien sûr dans ses forces affaiblies et relégitimé aux yeux de certains patriotiquement, qu'est-ce que nous observons d'autre? Un détroit d'Ormuz entièrement contrôlé encore à l'heure où on se parle par les Iraniens, une crédibilité du pouvoir américain fortement entamée par des décisions et des propos pour le moins erratiques depuis quelques jours, sinon depuis l'origine de ces interventions. Quel bilan, j'ai envie de dire.
Bah, le bilan est effectivement assez catastrophique politiquement pour les États-Unis, mais pas que politiquement. Ils ont épuisé une grande partie de leurs munitions, leurs stocks sont très bas. C'était d'ailleurs un des arguments qu'avait soulevé Dan Kane, le chef d'état-major, au moment de la prise de décision, en disant, si on se lance dans cette guerre, d'abord, il ne croyait pas du tout dans le scénario qui avait été proposé par les Israéliens. Il disait non, ne croyez pas que ça sera aussi facile que cela. Et il disait surtout, mais si on rentre dans une guerre qui dure ne serait-ce que quelques semaines, nous risquons de tomber très en dessous de nos réserves stratégiques. Bon. Ce qui est intéressant, c'est les conditions dans lesquelles Donald Trump a pris sa décision. Benjamin Netanyahou est venu proposer aux dirigeants américains une sorte de scénario. Bon, un, on tue les dirigeants, deux, on détruit les forces armées, trois, le peuple se révolte, quatre, on installe un nouveau régime. Le problème, c'est que ni la CIA ni la DIA, toujours une agence de renseignement qu'on a tendance à oublier, mais qui est extrêmement importante et qui surtout est très opérationnelle, elle, peut-être plus que la CIA, avait dit, bon, tout ça ne tient pas, suivant une expression bien américaine, that's bullshit. C'est du bullshit, enfin, bon. Et je vous dis, même le chef d'état-major était plus que réservé. Alors, pourquoi Trump a-t-il décidé d'y aller? Eh ben, je pense que c'est assez cohérent avec son caractère et surtout sa formation, je dirais, plus de spéculateur que de réels hommes d'affaires. Disons, c'est pas quelqu'un qui a créé quelque chose. Ce n'est pas Steve Jobs. Et donc, il est sur des coûts et faire des coûts, ça nécessite de prendre pas mal de risques. Et donc, il a décidé que oui, il fallait prendre ces risques. Bon, le résultat, au bout du compte, pour l'instant, on ne sait pas si il reprend les hostilités, ce qui est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est probable, mais je dis que c'est possible à l'heure actuelle. On ne sait pas comment ça peut évoluer, mais pour l'instant, il n'a pas complètement détruit les forces armées iraniennes, qui ont toujours des capacités de tir et de tir de missiles balistiques comme de tir de drones. Elles l'ont prouvé d'ailleurs 2 jours avant le 8 avril, quand les Iraniens ont cassé la grande usine chimique de Jubail. Il n'a évidemment pas réussi à décapiter le système politique iranien. Oui, bien sûr, il a tué des gens, il a tué des gens importants, c'est évident, mais ils ont été remplacés. Et donc ça en dit quand même long sur la capacité de résistance de l'État iranien. Et puis, il s'est avéré incapable de réagir au coup de maître qu'ont fait les Iraniens 3 jours après le début de la guerre, qui a consisté non pas à bloquer, comme on le dit assez improprement, le détroit d'Ormuz, mais à le contrôler.
À filtrer.
Et le contrôler, c'est toi, tu as une tête qui nous revient, tu passes, toi, tu as une tête qui nous revient pas, tu passes pas, et toi, tu es entre les deux, donc tu vas passer, mais tu vas payer. Alors après, ils ont développé tout un système de paiement extrêmement sophistiqué, en réalité, qui aujourd'hui s'appelle, dans les milieux pétroliers et les milieux maritimes à la Lloyd's, le péage de Téhéran. The Tehran Toll, bien. Donc, si vous voulez, c'est admis désormais par les acteurs, et cela, il a été absolument incapable de s'y opposer. Donc oui, pour l'instant, on est face à une victoire iranienne. Alors, une victoire à la Pyrrhus, faut immédiatement le dire, parce que les pertes subies par les Iraniens sont quand même très importantes, hein. Que ce soit les pertes humaines, on pense qu'il y a eu probablement 2 000, peut-être plus, peut-être 3 000 morts, oui, ça fait beaucoup. Même si on compare par rapport aux morts de la répression de janvier, les pertes aussi en capacité militaire, oui, elles ont été réduites, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elles ont été très loin d'être annihilées. Et aujourd'hui, les Iraniens conservent d'abord une capacité de frappe balistique, alors que l'un des objectifs était justement la suppression de leur capacité balistique. Ben non, ils ont gardé grosso modo entre 30 et 35% de leur capacité de frappe. Leur capacité maritime de blocage, je ne parle pas des unités dites de haute mer, bon, qui n'ont pas un énorme intérêt pour l'Iran. Par contre, le contrôle du détroit, ça oui, ça évidemment, c'est un intérêt. Ces unités côtières, elles sont intactes. Et donc, si les États-Unis veulent ne serait-ce que rétablir la liberté de passage, ça va être très compliqué. D'ailleurs, parce qu'ils ont pratiquement sabordé il y a quelques années leur capacité de déminage. Donc, ils devront faire appel aux Européens, qui, eux, ont conservé des capacités de déminage. Le problème, c'est que les Européens vont dire, attendez, nous, on ne va pas risquer nos gens pour faire du déminage juste sous les yeux des Iraniens. Donc, il faudra que vous obteniez la paix.
On a déjà commencé à le dire.
Ah
Le...
oui, mais c'était dit
Oui,
depuis 2 à 3 semaines.
mais bon, c'est une des rares choses, une des rares bonnes choses qu'on pourra mettre au bilan d'Emmanuel Macron.
Oui,
Et de ne
encore
pas, comme
que.
les autres Européens, comme tout le monde, à vrai dire, de ne pas s'être embarqué
Voilà,
sur
voilà.
le
Et
pont du Titanic après le choc de l'iceberg.
voilà, tout à fait. Et puis, c'est surtout l'idée de, ouh là 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 là, si on a ne serait-ce que 2 ou 3 morts, ça va poser de gros problèmes politiques en France. Il faut le dire, il y a un petit peu de politique, un quart de politique et trois quarts de trouille. De trouille, je dirais, des conséquences politiques de ça. Bon, donc voilà, on est dans cette situation et d'une certaine manière, les Iraniens, les dirigeants iraniens peuvent considérer, s'ils sont assez cyniques pour dire oui, d'accord, nous avons des pertes, nous avons des destructions, mais aucune de ces destructions ne nous empêche d'agir, aucune de ces destructions ne nous empêche de fonctionner, donc on peut attendre.
Alors, on va revenir à toutes les conséquences géopolitiques et au rééquilibrage mondial en train de s'opérer avec cette nouvelle guerre. Mais tout d'abord, commençons peut-être par ça, parce que c'est ce qui préoccupe beaucoup les Français aujourd'hui. La question, bien sûr, de la situation sur le front de l'énergie, des hydrocarbures. Du prix du pétrole et du gaz. Bon, disons les choses. Alors, vous en êtes un des meilleurs experts français en économie, je crois qu'on peut le dire. Donc, c'est vraiment important de vous avoir ce soir à l'antenne. Alors, disons les choses. Le cessez-le-feu de 2 semaines, qu'il tienne ou pas, a été salué, je le disais tout à l'heure en introduction, par une forte chute du cours du Brent, qui est le cours qui fixe le prix sur les marchés du pétrole et donc voilà, qui se répercute à la pompe. Vous allez justement nous expliquer ce soir de quelle façon et dans quel délai. En 24 heures, il se trouve qu'il avait reculé de 15%. Je ne sais pas où nous en sommes à la fermeture des marchés ce soir, même si la guerre s'arrête ici. Ce qui paraît assez peu probable. Mais en admettant que tout s'arrête ici, est-ce que cela veut dire que la crise énergétique que nous avons commencé à vivre va rapidement commencer à se résoudre, oui ou non?
Non, et pour plusieurs raisons. Alors, la première raison, il faut savoir que on considère deux niveaux de prix. Il y a les prix du pétrole papier et du gaz papier. Autrement dit, ce sont en règle générale des prix au futur, 1 mois, 3 mois, etc., qui sont basés et qui reflètent les anticipations des acteurs financiers. Et puis, on a le prix de la cargaison réelle. Et ce prix-là, il n'a pas du tout baissé. Les cargaisons s'achetaient, alors pour le pétrole de Dubaï, autour de 141 dollars le baril, pour le Sokol, c'est-à-dire le pétrole russe d'Extrême-Orient, il s'achetait toujours autour de 160 dollars le baril. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est très significatif, c'est l'écart que nous avons aujourd'hui entre le prix papier et le prix réel. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les mécanismes de marché ne fonctionnent plus. Parce que s'ils fonctionnaient, il devrait y avoir rapidement une convergence de ces prix et surtout, il ne devrait pas y avoir un écart de pratiquement 34 dollars que l'on a observé par exemple le 8. Le 8 avril, le prix donc papier était de l'ordre de 95-96 dollars. Le prix réel, autrement dit le prix de la cargaison au port de départ ou au port d'arrivée, était à 141 dollars. Donc voilà, il y avait la plus 45, après il est tombé à 34 dollars et il s'est stabilisé dans la journée à 34 dollars. C'est énorme. C'est une divergence des prix. Qui est tout à fait considérable. Bon, donc ça, c'est un premier point.
Et qui
Le
s'explique
deuxième.
juste, Jacques, qui s'explique par quel mécanisme? J'ai pas, on aimerait bien voir le.
Alors, il y a toujours une différence entre le prix réel et le prix papier, parce que le prix papier est censé être une moyenne, et le prix réel, ben, il tient compte des conditions de cette cargaison.
D'accord.
Est-ce que le pétrole a été chargé facilement ou pas, quelle est la qualité du pétrole. Bon, il y a toute une série de choses qui interviennent. Bien. Mais c'est normalement une différence de 8 à 10 dollars au plus. Je dis bien au plus. Que la différence soit aussi élevée, cela veut dire que les marchés financiers sont en train de fonctionner dans leur bulle. Eux, ils regardent, ah oui, ah ben oui, là maintenant ça va mieux, il va y avoir la paix, ah mais non, c'est remis en cause. Bon, eux, c'est ça qui les intéresse. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème pour les opérateurs, que ce soit les opérateurs à la vente ou les opérateurs à l'achat, c'est est-ce qu'il y a du pétrole? Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de pétrole. Il n'y a plus de pétrole, il manque entre 11 et 13 millions de barils jour. C'est-à-dire qu'il manque à peu près 20% de la production mondiale.
Effectivement, je précise, c'était le chiffre donné ce matin par le ministre de l'économie sur France Inter, 12 millions manquants.
Voilà. Bon, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que ce pétrole manque? Bah, ce n'est pas en raison du blocage du détroit d'Ormuz, un blocage qui n'a jamais existé. En réalité, c'est un blocage, c'est un filtrage très sélectif auquel se livrent les dirigeants iraniens et qui fait qu'il y a des pays qui continuent de sortir du pétrole du Golfe sans aucun problème et sans coût supplémentaire. La Chine, l'Inde, le Pakistan, la Turquie. Et puis il y a des pays qui ne peuvent pas sortir du tout. Et puis, il y a des pays entre les deux, bon, qui vont sortir, mais qui vont payer justement cette fameuse taxe de Téhéran. Donc, ce n'est pas fondamentalement, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la destruction des capacités de chargement de pétrole et de gaz aussi, hein, il faut le dire, à la suite des frappes iraniennes qui elles-mêmes étaient en réponse aux frappes que les Iraniens avaient subi de la part des Israéliens et des Américains. Il faut savoir que les Iraniens, ils ont fait très fort. Ils ont cassé à peu près 50% du potentiel industriel. Et donc, aujourd'hui, les ministres du pétrole, que ce soit celui d'Oman, celui du Qatar, bon, etc., disent tous, on ne retrouvera la situation d'avant-guerre que dans un minimum de 2 ans. Et peut-être même, ça va durer jusqu'à 5 ans. Donc, en réalité, on est devant cette situation. Tout le monde s'agite autour de la question du détroit d'Ormuz. Alors, je suis le premier à reconnaître que ça a été une opération politique absolument superbe des Iraniens,
On va
qu'ils
y
se sont...
revenir en précision.
Ouais. Mais qu'ils se sont donné les moyens de la faire durer dans le temps et de lever une taxe. Une taxe qui, je rappelle, si le détroit retrouvait l'activité qu'il avait en février, ça pourrait leur rapporter jusqu'à 85 milliards de dollars. Pour comparer, les exportations de pétrole de l'Iran, même chose, au début février, c'était l'équivalent de 50 milliards par an. Donc, ça veut dire qu'ils vont, à travers cette taxe, retrouver une source de revenus très supérieure à la source de revenus qu'ils avaient avant. C'est quand même assez joli comme opération, il faut bien le reconnaître.
Effectivement. Bah alors, puisqu'on est sur le détroit d'Ormuz, restons-y finalement. C'est vrai que cette situation est totalement invraisemblable. Je le rappelle à ceux qui nous écoutent, c'était un passage maritime ouvert à la libre circulation. Et maintenant, on évoque, au bout de cette semaine, sa privatisation intégrale, un droit de péage dont l'Iran serait évidemment possiblement le bénéficiaire, mais aussi les États-Unis. C'est en tout cas l'objectif, bien sûr, de Donald Trump, hein, que ce soit co-géré. Je ne vois pas comment les Iraniens pourraient accepter une chose comme ça. Vous allez nous donner, d'ailleurs, Jacques Sapir, votre sentiment. Mais effectivement, on évoque un droit de péage hallucinant de 2 millions d'euros par navire. Une espèce de jackpot, hein, de Vinci Autoroute.
Ça.
Pour racketter les
Ouais.
voyageurs sur les mers internationales. Non, mais c'est totalement incroyable.
Ce qui est incroyable en fait, c'est que c'est une ironie du sort terrible parce que le 2 avril 2025, il faut se souvenir hein, que Trump brandissait ses droits de douane hein, avec son tableau. Hein, on se souvient du tableau de Trump, quoi. Et en fait, c'est les frères Lumière, c'est l'arroseur arrosé. Au bout de cette expédition, où on y reviendra peut-être, où des discours ont été quand même professés par rapport à un chef d'État des États-Unis qui sont absolument abominables, et un renversement complet, c'est-à-dire que c'est les Iraniens qui ont leur propre petit tableau et qu'ils disent, avec la notion de nation amie d'ailleurs, il faudra réfléchir à ça, hein, puisque en fait la politique commerciale, c'est un moyen de pression géopolitique. En fait, finalement, aujourd'hui. Et donc, ils ont leur tableau parce qu'il y a il y a aussi des différences de traitement. Et c'est sidérant, enfin. Je crois que c'est quand même. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans l'histoire d'une telle ironie à la fois économique et géopolitique. Je trouve ça assez fou, quand même.
Jacques.
Oui. Alors, d'abord, pour la question de qui va recevoir, les Iraniens ont dit, on ne veut pas le garder pour nous. On est prêt à partager avec le sultanat d'Oman. Et comme ça, on va co-gérer des deux rives le détroit. Si les Omanais veulent en reverser une partie aux États-Unis, c'est leur problème. Nous, ça ne nous concerne pas. Bien, ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que l'Iran est très sérieux sur cette question. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils viennent d'annoncer, il y a de ça à peu près 12 heures, qu'ils avaient mouillé des mines dans le détroit. Ils ont confirmé ce qu'on pensait, hein. On pensait de plus en plus, donc ils ont mouillé des mines.
Est-ce que, selon vous, Jacques Sapir, c'est vrai ou c'est du bluff?
Non, c'est vrai. Ce sont des mines télécommandées, et en fait, elles bloquent la partie sud du détroit, celle qui passe vraiment directement devant Oman. Et donc, ça veut dire qu'on est obligé désormais de naviguer sur les deux rails secondaires et non pas sur les rails principaux qui, eux, passent de fait dans les eaux iraniennes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut savoir que quand on dit oui, c'était un détroit ouvert à tout le monde, c'était une convention, ce n'était pas une loi, ce n'était pas une règle. Les États-Unis n'ont jamais signé la convention de Montego Bay. Jamais. Et il y a toute une série de pays qui ne l'ont pas signé. Par exemple, Israël, si vous voulez. Bon, donc, les Iraniens disent, mais cette convention, elle n'est pas internationale, puisqu'il y a des pays qui ne veulent pas la signer. Et pas n'importe lesquels. La première thalassocratie du monde, les États-Unis, n'ont pas signé cette convention. Donc, de fait, il y avait une coutume qui consistait à dire. On considère que les eaux de ce détroit sont des eaux internationales, mais rien ne nous interdit de dire, ben non, ce ne sont pas des eaux internationales, nous étendons nos eaux territoriales et nous prenons le contrôle d'une partie du détroit. Il faut faire très attention à cela. Et là encore, on voit bien les États-Unis se disaient, bon, nous, on peut jouer les fiers à bras, on veut n'être contraint par aucune règle, on est les plus forts sur mer, ça ne pose pas de questions. Oui. Tant que vous êtes les plus forts. Et du jour où vous n'êtes pas les plus forts, eh ben ce sont les règles du plus fort qui s'appliquent. Et pour l'instant, le plus fort s'appelle l'Iran.
Alors, je tiens à rappeler la position de la France, hein, après ce cessez-le-feu, hein, même si ça peut prêter à sourire, bien sûr, par la voix de notre ministre Jean-Noël Barrot. La France a rappelé que c'était absolument illégal, bien sûr, hein, de filtrer, de créer un péage sur le détroit d'Ormuz et qu'aucune entrave ne pouvait être admise à la navigabilité des eaux internationales. Voilà. Qu'est-ce que ça
Alors,
vous fait dire, Jacques?
moi, ça me fait penser à la chose suivante. On est au haut Moyen Âge. On a un petit moine qui arrive, soit marchant, soit voyageant sur une mule, et qui arrive devant un péage d'un seigneur, et qui dit, mais vous n'avez pas le droit de mettre un péage. Et le seigneur dit, ben si, parce que j'ai la force, et que toi, tu l'as pas, et que donc tu vas payer. Ça s'appelait une banalité à l'époque. Et c'est très exactement ça qu'ont fait les Iraniens. Et je répète, comme cette convention n'a pas été ratifiée par toute une série de pays, et pas des moindres, hein, en particulier d'un point de vue naval, tout ce qui est fait sans les États-Unis est clairement nul et non avenu. Quand le président Macron dit « mais c'était légal », eh bien non. Soit il s'abuse, soit il nous abuse. Mais une décision qui n'est pas ratifiée, au moins par les plus grands pays, ne peut pas être considérée comme je dirais, comme quelque chose de légal. C'est au mieux quelque chose de coutumier. Voilà, il y avait une coutume et tout le monde s'en accommodait parce que ça arrangeait tout le monde, il faut le dire, hein. Faut le dire clairement. Mais du moment où l'un dit ça ne m'arrange plus, je décide de privatiser et j'ai les moyens de le faire et vous n'avez pas les moyens de m'en empêcher, eh bien, il le fait.
Ouais, en fait, c'est du Trump. C'est-à-dire que si on considère que le droit est la réalisation d'un rapport de force, ben, ils prennent Trump sur la force. Vous êtes dans le
Exactement.
rapport de force, on vous impose un rapport de force. Soit vous prenez le détroit, vous ne pouvez pas le faire. Si vous ne pouvez pas le faire, ben, le droit est à nous, quoi.
Absolument.
Ouais.
Absolument. Il joue le Trump.
Alors, effectivement, l'Iran pourrait en sortir, vous le soulignez il y a quelques minutes, Jacques Sapir. Enrichi, renforcé à tous égards hein, en tant que puissance, y compris économique. Hors le changement de régime, bah celui-là, on ne le voit pas venir. J'écoutais hier en direct en France bah le fils du chat, hein, Reza Pahlavi, qui était longuement et assez servilement interviewé sur LCI, et il appelait Trump, il appelait Donald Trump, mais oui, à reprendre les bombardements,
Bien sûr.
loin de peut-être de se repentir, soyons fous, et de se dire que finalement, bah, le résultat étant loin des attentes et la population iranienne, il faut le dire, il faut penser à elle, évidemment, ce soir, est totalement terrorisé, eh bien, il appelait néanmoins Trump à aller plus loin. Il avait l'air assez déçu par ce cessez-le-feu. Alors, évidemment, il n'appelait pas à des bombardements massifs, ni sur les infrastructures énergétiques, etc., mais il appelait à des bombardements ciblés. Et simplement, on a vu ce que ça donnait, les bombardements ciblés. Donc, rien n'est réglé.
Sans
Absolument
compter,
rien n'est réglé.
sans compter le cynisme quand même de refuser finalement ce cessez-le-feu quand on sait les paroles qui ont été tenues par Trump. Il faut quand même pas l'oublier. Alors, on y prête un peu pas trop attention parce qu'on se dit il écrit n'importe quoi. Il est quand même président des États-Unis. Il a quand même parlé d'exterminer une civilisation. Et en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui se prévaut du peuple et de la démocratie va dans le sens d'un homme qui est capable de proférer de telles menaces. C'est assez stupéfiant quand même.
Comment,
Oui.
Jacques Sapir, comment vous avez ressenti tout de même, parce que c'est vrai qu'on ne le prend plus au sérieux, même si c'est le président des États-Unis, j'ai l'impression que la planète entière pense que tout ce qui sort, vous disiez le mot tout à l'heure, est du bullshit. Il n'empêche que, voilà, on s'est tous endormis le 7 avril en se disant, mais qu'est-ce qu'on va trouver au milieu de la nuit? Comment
Oui,
vous
alors,
avez vécu ce moment?
oui, tout à fait. En plus, moi, j'avais une crainte particulière avec toute une série de collègues. On craignait que soit les États-Unis, soit Israël n'utilisent des armes nucléaires tactiques. C'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Bon, je passe là-dessus. Alors, il faut dire une chose, on a tort de ne pas écouter Donald Trump. Je le redis. Oui, il est grossier. Oui, il peut raconter. Sur certains points en particulier, quand il parle soit de la grande culture, soit vous êtes qu'une bande de tocards, bon, okay, d'accord. Mais fondamentalement, il dit ce qu'il peut faire et il met toujours ses interlocuteurs devant des choix qu'il espère être des choix contraignants. Sa tactique, sa manière d'utiliser les mots comme des armes, oui, elle est réelle et elle doit donc être étudiée. Par contre, quelqu'un comme le fils du chat, le chaton, si on veut, non, ça n'a absolument aucun intérêt de l'entendre. Je pense que ça a été du mauvais journalisme. D'ailleurs, il ne fait plus partie des gens qui sont reconnus par Trump, il faut le savoir. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'administration Trump, elle dit, ben voilà, on a essayé, ce sont toujours les mollahs et les dirigeants militaires qui restent en place, donc c'est avec eux qu'on va parler. Parce qu'il faut bien parler avec quelqu'un. Et personne d'autre n'est crédible. J'ajouterais que, alors, je m'avance un peu parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de l'Iran, si vous voulez, mais je raisonne là par analogie avec l'Union soviétique, lors de la Grande Guerre patriotique. Le régime stalinien était couvert de crimes et il en avait commis notamment en 1939, en 1940, que ce soit alors, par rapport aux Polonais, aux Baltes, mais que ce soit aussi beaucoup dans sa population, parce qu'il faut toujours se rappeler qu'en 1940, il y a une vague de répression extrêmement importante. C'est par exemple l'époque où le simple fait d'arriver avec 20 minutes de retard au travail peut vous valoir 3 ans de camp. Donc, on est dans une période dure du stalinisme. Et le résultat de l'attaque allemande, ça va être au bout de quelques semaines, voire de quelques mois, de ressouder la population autour de ce régime. J'en avais longuement parlé avec Moshe Levin, un grand historien de l'Union soviétique, qui, ce fait, a fini la guerre comme lieutenant dans l'armée du maréchal Koniev. Et il me disait, oui, bien sûr, avec Staline, on pouvait être tué. Mais avec Hitler, on était sûr d'être tué. Et ça fait une énorme différence. Et donc, à travers cette analogie, je pense que très probablement, le régime iranien a regagné de la légitimité. Alors, combien? Est-ce que c'est une forme de légitimité aussi générale que celle dont bénéficiait Staline à la fin de la Seconde Guerre mondiale? Parce qu'il faut savoir que, grosso modo, la très grande majorité des Soviétiques soutenait Staline à la fin, en 1945. Alors que si on avait pu faire des sondages sur la situation en 1939 ou en 1940, je doute que plus du tiers des Soviétiques l'aient soutenu. Bon. Donc, il est certain qu'aujourd'hui, les dirigeants iraniens sont beaucoup plus légitimes, dans quelle proportion, ça je ne peux pas le dire, mais sont beaucoup plus légitimes qu'ils ne l'étaient avant le début de cette guerre. Après, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de cette légitimité? Parce que cette légitimité, on peut la dilapider en 1 ou 2 ans. Mais ça, c'est un autre problème. Et c'est un problème qui ne se posera qu'après la fin de la guerre. Et donc, aujourd'hui, un autre effet involontaire de la politique de Trump, c'est qu'il a redonné à un régime qui n'en avait plus une légitimité forte, peut-être très forte. Je le répète, je ne suis pas un spécialiste. Je laisse cette question de l'estimation
Et surtout, nous ne sommes
de...
pas sur place.
Tout à
Et
fait.
voilà. Et nous savons par ailleurs que les exécutions ont repris, les pendaisons ont repris en Iran. Donc c'est vrai que le régime est toujours au nid. Effectivement, et vous le soulignez totalement à juste titre, Jacques Sapir, c'était sans doute l'un des régimes les plus au nid de la planète. Et la brutalité de l'attaque subie par les États-Unis, Israël, est en train de changer son image, sa position, sa situation. Ces choses-là sont extrêmement connues en réalité. C'est certainement, ça fait certainement partie des éléments qui faisaient que les proches de Donald Trump, le Pentagone, la CIA, étaient contre cette guerre, hein. Vous en parliez, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous en parliez en préambule. Maintenant, on y voit un petit peu plus clair sur les raisons de l'engagement guerrier de Donald Trump. Hein. On sait que voilà, le poids d'Israël a été considérable dans cette affaire. Un article paru, je crois que c'était hier ou il y a 48 heures, dans le New York Times, a établi de façon extrêmement précise
La chronologie.
la chronologie des décisions. Bon, il y a peut-être des gens dans l'histoire, hein, je pense notamment à J.D. Vance ou à Marc Rubio, qui sont en train de se faufiler par rapport à leurs responsabilités réelles, mais en tout cas, on voit très bien que c'est quand même une guerre en grande partie décidée Donald Trump et pas et sa proximité avec le pouvoir israélien dans cette affaire, bien sûr, interroge.
Et pour preuve d'ailleurs, et pour preuve, les frappes contre le Liban, hein, qui après le cessez-le-feu, on est à 200 morts quand même. Hein. Donc les frappes se poursuivent et je suis pas sûr là aussi que dans l'administration américaine, il n'ait pas envie d'étendre en fait, en tout cas certains, le cessez-le-feu de 15 jours au Liban. En fait, c'est un enjeu énorme en fait, parce que c'est la même guerre. Hein.
Tout à fait. C'est ce que l'Iran a demandé. Et l'Iran, visiblement, n'est pas prêt à céder là-dessus. L'Iran dit, pour nous, le cessez-le-feu, la trêve ne sera valable que si elle inclut le Liban. Donc ça, c'est un premier point. D'ailleurs, aujourd'hui, les États-Unis ont mis en garde le gouvernement israélien. Et il faut bien voir quelle est la logique, des choses. La logique des choses, c'est que je pense que Trump a compris que c'était quand même beaucoup plus difficile que ce qu'il pensait au départ. Bien. Il doit donc reculer. Mais il déteste ça, reculer. Donc, il va reculer en prétendant que c'est une victoire et que tout ce qui n'a pas marché, c'est pas lui, c'est les autres. Les autres, c'est qui? Les Israéliens. Et il faut savoir que pour les Israéliens, d'ailleurs, il suffit de lire la presse israélienne. Elle est terriblement critique contre son gouvernement, y compris la presse de centre droit. Aujourd'hui, elle considère que c'est une défaite stratégique pour Israël. Après, je dirais, une autre personne qui pourrait porter le fardeau, un autre bouc émissaire, c'est le ministre de la Défense. Et c'est pour ça qu'il, je dis, il en rajoute sur sa manière de s'étendre à plat ventre devant son patron, parce qu'il sait qu'à un moment donné, son patron peut lui dire t'es viré. Et on a vu avec quelle brutalité il a viré
La
Pam Dionji, qui
purgée
était
sévèrement, oui.
tout à fait. Bon, après, il y a quand même Rubio. Rubio pourrait aussi être désigné comme bouc émissaire de cette histoire-là. Donc, il faut savoir qu'on est dans une situation qui aujourd'hui devient complexe, assez imprévisible à Washington, et dans laquelle les militaires à bas bruit commencent à, je dirais, faire sentir leur désaccord. Bon, il y a un des généraux qui ont été virés par excès il y a 4-5 jours de là, qui a dit... Ce mec, il parlait du président, il est le plus dingue qu'on ait eu à Washington. Mais globalement, il y a une forme de front qui est en train de se constituer entre les gens du renseignement, la CIA, la DIA, et une partie de l'état-major pour dire, en fait, on n'est pas d'accord avec le président. Bien sûr, nous, on est, je dirais, des gens qui appliquent la légalité. Ce n'est pas à nous de faire la politique, mais on vous dit, il ne nous mène nulle part. Et ça, il faut se souvenir qu'on a un exemple, de ce type, je dirais, un petit peu de fronde dans le monde du renseignement et dans le monde militaire. C'était en 2003. Je rappelle qu'avant, l'attaque américaine sur l'Irak, avait circulé, en fait, émis par la CIA, un papier extrêmement intéressant qui s'appelait Le jour d'après. Alors, une expression qui est extrêmement symbolique dans ces milieux-là, le jour d'après fait aussi référence au jour d'après une guerre nucléaire. Bon, je passe là-dessus. Et il disait, oui, bien sûr, on peut démolir l'armée de Saddam Hussein, ce n'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on fait après? Comment on reconstruit un État? Et ça, on ne sait pas faire. Et la réponse à cela avait été une forme de purge dans la CIA qui avait décapité la CIA pour plusieurs années. Vraiment, elle avait mis du mal à se remettre de la purge qui avait été mise en place par Bush et en réalité beaucoup plus par Rumsfeld et par Condoleezza Rice. Bon. Aujourd'hui, On est en train de voir à peu près la même chose, sauf que là, pour une fois, on n'est pas simplement avec les analyses de la CIA qui disent non, mais vous êtes dingue, faut arrêter. Bon, on a l'agence de renseignement de l'armée et surtout, on a le Pentagone, en tous les cas, une grosse partie du Pentagone. Donc, je vous dis, il faut aussi suivre ce qui va se passer parce que cette forme d'opposition, pour l'instant à bas bruit, mais qui pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur, elle ne vise pas à remplacer Donald Trump. Faut pas non plus se faire des histoires, de faire des grands rêves. Ce qu'ils veulent, c'est pas faire partir Donald Trump, parce qu'ils ont très bien conscience du choc que cela aurait pour le système institutionnel américain, qui est déjà très affaibli.
Réduire Jacques voulait dire de le destituer. C'est
Oui,
ça.
de le destituer. C'est pas de ça dont il est question.
Non, mais c'est comme en France. Tout le monde recule devant cette perspective.
Oui, mais c'est aussi l'idée. On peut, sans le destituer, le contraindre à changer de politique et surtout à développer une stratégie. Et c'est vrai que c'est plutôt vers cela qu'on est en train de s'engager.
OK. On va prendre des questions du chat.
Il y en a quelques-unes très
Beaucoup de monde
intéressantes.
ce soir hein, sur les réseaux pour vous écouter, Jacques Sapir. Je vais peut-être, avant qu'on parte sur les grands équilibres mondiaux, peut-être revenons justement à la question de l'énergie et à la façon dont elle impacte les Français et ceux qui nous écoutent. Alors, une question du chat pour vous, Jacques Sapir. La France n'importe. Alors là, je le dis sous votre contrôle. Hein. La France n'importe que 8% du pétrole venant des pays du Golfe. Comment donc expliquer de telles hausses de prix chez nous? C'est la première question. Autre question qui nous emmène plus loin, mais je vous la pose également. Pensez-vous qu'en faisant payer en yuan, donc la devise chinoise, le passage des pétroliers à Hormuz, l'Iran puisse cette fois réellement fragiliser la puissance hégémonique du dollar, comme cette, voilà, cette dédollarisation que nous annonçons depuis déjà quelques années?
Alors, sur la question de l'importation du pétrole et de ses dérivés, oui, nous n'importons que 8% du pétrole des pays du Moyen-Orient. Mais nous importons beaucoup plus en ce qui concerne les dérivés, et notamment le carburant diesel. Aujourd'hui, il y a, je crois, une seule raffinerie qui est capable de faire du carburant diesel en France, donc tout le reste doit être importé. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique pourquoi le prix du diesel est aujourd'hui plus haut que le prix du 95 sans plomb. Traditionnellement, le diesel était conçu comme un carburant bon marché. L'essence était plus chère, le diesel était moins cher. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Et donc, on voit bien là le problème. Et ça, c'est un problème de raffinerie. Et c'est un problème, justement, de ce qu'il manque des raffineries. Parce qu'il y a toute une série des raffineries du Golfe qui soit sont détruites, soit ne peuvent plus fonctionner, parce qu'il leur manque toute une série d'intrants qui les condamnent pour l'instant à l'inactivité. Donc ça aussi, c'est en réalité très grave. Même chose sur le kérosène. Alors, c'est moins grave en France qu'en Italie, mais il faut s'attendre à ce que les prix des billets d'avion augmentent de manière considérable. Il y a eu ce week-end des cas de pénurie absolue de kérosène dans plusieurs aéroports italiens. Donc, il faut faire attention. Quand on regarde sur les montants généraux des importations, on a des moyennes. Quand on regarde dans les faits, dans les choses concrètes, ce qui va toucher la population, on rentre dans le détail. Et ça, c'est un point extrêmement important. Et
Alors
donc,
Jacques Sapir, je vous interromps une minute, je vous pose la question parce que elle englobe un petit peu toutes les questions qui se posent ce soir. Cette situation, quand bien même on serait dans le cas de figure idéal, quand bien même il y aurait un accord de paix, quand bien même Donald Trump n'inventerait pas une nouvelle folie, etc., combien de temps va durer cette situation? Combien de temps les chaînes d'approvisionnement vont être perturbés, combien de temps le système entier de l'énergie va être voilà. Est-ce qu'on a quand même une approche, un calendrier, une approche temporelle dans tout ça, ou est-ce qu'on est dans l'inconnu total?
Il y a beaucoup d'inconnus et on est en fait dans cette fourchette. Au minimum, il faudra 2 ans pour que tout revienne à la normale. Au maximum, cela pourrait monter jusqu'à 5 ans. Donc, je le répète, aujourd'hui, le problème principal, ce sont les destructions. C'est beaucoup moins la question du trafic dans le détroit d'Ormuz. Bien sûr, je dirais, le filtrage a des conséquences importantes pour l'économie mondiale parce qu'il y a toute une série de bateaux qui sont bloqués dans la partie ouest du Golfe. Si vous voulez, ils sont à l'ouest du détroit, ils n'arrivent pas à sortir du détroit. Donc, alors je signale qu'on parle de 3 000 bateaux. Et sur ces 3 000 bateaux, il y en a 800 qui sont des bateaux de très gros tonnage. Donc, ce n'est pas non plus un petit détail. Mais ça vient s'ajouter. C'est un problème logistique qui vient en plus s'ajouter. Mais même si ce problème logistique était résolu, même si tout d'un coup les Iraniens disaient ben non, on rouvre complètement le détroit d'Ormuz, bon, etc., les destructions sont aujourd'hui telles, et c'est, si vous voulez, il faut comprendre, elles touchent bien sûr les raffineries, les points d'embarquement du pétrole dans les ports qui ont été touchés, que ce soit par des drones ou des missiles balistiques, mais aussi les très grandes usines chimiques. Il y en a une qui a été bien détruite au Koweït, et il y en a une autre en Arabie Saoudite, la fameuse l'usine chimique de Jubail, qui brûlait encore il y a 24 heures. Donc, ce sont des dommages extensifs. Bon. Et par ailleurs, comme ces usines très souvent sont interdépendantes, donc une usine produit un composé, elle est l'une des seules à le produire. Pourquoi? Parce que, bon, c'est pas très intéressant. Eux, ils ont trouvé une petite niche. Sauf que ce composé, il est absolument nécessaire pour le fonctionnement des autres usines. Et donc, comme toutes les usines sont à l'arrêt, comme ce qu'on appelle les réacteurs chimiques sont à l'arrêt, comme les catalyseurs sont aujourd'hui à l'arrêt, il faudra plusieurs mois pour qu'ils retrouvent leur capacité de fonctionnement. Par ailleurs, il faut savoir qu'il y a peu d'entreprises qui sont capables de produire, par exemple, un nouveau catalyseur chimique de la taille nécessaire. Hein. Oui, des petits catalyseurs, on peut, mais bon. Et donc, quand on a demandé à ces entreprises, elles ont dit entre 24 et 36 mois.
Ce
Donc,
qui est, ce qui est assez incroyable, c'est que en fait, on voit bien le gouvernement ne communique pas sur la réalité des destructions, sur le monde réel, ce qu'on pourrait appeler le monde réel. On parle du spéculatif, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez bien expliqué la différence entre le prix papier et puis le prix, on va dire, production, transport et la réalité. Et cette méconnaissance, en fait, finalement, de la réalité de la production. Par exemple du diesel, et je trouve est coupable en fait par rapport aux
tout à
politiques
fait.
qui ne communiquent pas là-dessus, qui n'expliquent pas aux gens en fait qui payent à la pompe là actuellement 2,24 le diesel, qui n'expliquent pas cette réalité-là.
Tout à fait, vous avez entièrement raison, et je partage complètement votre point de vue. Si nous avions un gouvernement décent aujourd'hui en France, le ministre de l'Industrie ferait une conférence de presse et il expliquerait tout ça.
Parce que ça a des conséquences énormes, parce que
Ah ben
le
bien
petit
sûr.
chèque, le crédit flash à 3,8%, on a l'impression que c'est des petites mesurettes temporaires, hein, ça va passer comme le printemps, quoi. Enfin, c'est vraiment, on est un peu dans. Ils gagnent du temps, on a l'impression qu'ils font ces
Tout à
petites
fait.
mesures.
Tout à fait. Alors, est-ce qu'ils gagnent du temps parce qu'ils sont tellement terrorisés par ce qui est en train de nous arriver dans la figure qu'ils se disent il ne faut surtout pas le dire, on verra bien. On verra bien. Bon. Ou est-ce qu'ils gagnent du temps parce qu'ils sont incompétents? Autre possibilité qu'on ne peut pas exclure. On sera d'accord que l'incompétence explique malheureusement beaucoup plus de choses que la perversité ou le complot.
Parce que, alors, j'ai une autre question, Jacques. Après, on va reprendre les questions du chat. Mais beaucoup de Français pensent que plus on paye cher à la pompe, plus le gouvernement finalement s'enrichit. Enfin, quelle est la part fixe? Comment ça marche exactement, précisément le prix? Parce qu'il y a, y a cette idée de la répercussion et voilà, à qui sert le crime, quoi? C'est-à-dire, à qui profite
Alors,
le crime?
une partie des impôts sont des impôts fixes. Une partie des impôts sont des impôts mobiles, donc en pourcentage du prix d'achat du produit. Maintenant, de quel produit parle-t-on? Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas normalement les mêmes règles fiscales pour le 95 sans plomb, pour le diesel, pour le gazole, bon, etc. Bon. Globalement, on peut dire une chose, c'est que quand on est face à de très fortes hausses de prix, oui, l'État va gagner un petit peu dessus. C'est inévitable. Alors on pourrait bien sûr décider de changer de système fiscal. Mais je signale que la France n'est pas le pays le plus mal loti. Bon, c'est vrai, on paye beaucoup d'impôts. C'est une évidence. Néanmoins, il y a des pays, par exemple Malte, en paye beaucoup moins. Mais d'autres pays, comme les Pays-Bas, en payent plus, en pourcentage. Hein, je dis bien toujours en pourcentage. Donc en fait, on est dans une moyenne, plutôt dans le haut de la moyenne, c'est vrai, mais on est dans une moyenne, etc. Non, le vrai problème, c'est soit on dit on abandonne tous les impôts sur les carburants. Et on répartit les impôts sur autre chose, sur la TVA et sur l'impôt sur le revenu. C'est tout à fait possible. Sauf que qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, les prix du carburant deviennent extraordinairement flexibles au prix de production. Si vous voulez. L'avantage, entre guillemets, d'avoir grosso modo 60% d'impôts, voire 70% d'impôts
Ça
sur le prix
amortit, moi.
de vente, et oui, ça amortit. Tout à fait. Alors, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Enfin, les États-Unis payent très peu d'impôts. Oui, mais
Sauf que là.
quand vous avez cette hausse, ben là, les gens la prennent plein pot parce qu'il n'y a rien pour l'amortir. Donc, il faut bien voir qu'il n'y a pas de bonne solution. Nous savons tous que pour faire fonctionner un État moderne, il faut payer des impôts. Tous les gens qui s'imaginent qu'on peut revivre en 2020 dans une situation du début du 19e siècle se mettent le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je suis désolé.
À savoir, à savoir.
Plus la société se complexifie, plus le nombre de relations sociales au sein de la société augmente, autrement dit, plus la densité sociale de la société augmente, et plus il faut de l'État. Et je suis désolé, l'État, ça coûte de l'argent. On demande d'avoir des juridictions pour s'occuper de toute une série de choses. Et on a raison. Il faut protéger les enfants. Il faut réglementer la conduite automobile en ville. Mais qui dit des réglementations et des lois? Dit des juges. Il faut bien des gens pour les faire appliquer ces lois. Donc, on ne peut pas aujourd'hui vouloir revenir à un État de la taille d'un État en temps de paix de la fin du 18e, début du 19e, dans une société moderne. Ou alors accepter de repartir dans un monde où vous n'avez pas d'électricité, où vous n'avez pas d'eau courante, etc., etc. Donc, on sait qu'il faut payer de l'argent. La question, après, c'est de savoir comment, à travers quel mécanisme on paye cet argent. C'est là où on peut effectivement discuter et dire il y a des méthodes qui sont peut-être
Parce
plus
que
justes que d'autres.
c'est vrai que on l'a vu avec les gilets jaunes, on parlait du diesel, mais le diesel, ça touche les classes populaires, ça touche des gens qui ne
Tout à
peuvent
fait.
pas se payer une voiture électrique, qui ne peuvent pas se payer une hybride, qui ne peuvent pas, voilà, et qui travaillent. Il y a beaucoup de camionnettes, il y a des utilitaires, tout ça fonctionne au diesel. Donc c'est voir le diesel à 2,40, 2,50, c'est terrifiant en fait. Je dirais pour les classes populaires, c'est quelque chose de terrifiant en fait.
Oui, mais je suis entièrement d'accord. Alors après, on peut trouver à certains moments des ajustements. Bon, quelque chose qui consisterait à dire, tout professionnel ne doit pas payer le prix d'un particulier. L'artisan qui a besoin absolument de sa camionnette pour aller travailler chez les gens, etc., ne devrait pas payer le litre de diesel au même prix que le paye un particulier. Mais c'est bien de le dire, mais il faut tout de suite penser à ce qui vient après. Un, les particuliers peuvent dire aussi qu'ils peuvent avoir un besoin absolu de leur voiture. Deux,
C'est vrai.
qu'est-ce qui vous prouve que...
Pour les travailleurs en milieu
Bien
rural,
sûr, tout
bien
à
sûr,
fait. Bon,
les aides-soignants.
qu'est-ce qui vous prouve que l'artisan qui va donc bénéficier d'un diesel, par exemple, sans impôt, il ne va pas en acheter 20% de plus et le revendre au noir à des particuliers, histoire de se faire un petit peu d'argent. Est-ce que vous pouvez garantir ça? Alors la seule manière, c'est de dire, ah oui, mais on va contrer la fraude, on va regarder quelle est la dépense de carburant sur 2 ou 3 ans, et donc il aura des bons, il pourra acheter la même quantité qu'en moyenne pendant 2 ou 3 ans à ce prix, je dirais, baissé artificiellement, puis le reste, il paiera le prix normal. Et vous voyez la
Oui,
complexité du
oui.
système? Donc, je le
Tout ça
répète,
sans état, tout ça sans état.
voilà. Donc, voilà, il faut un État. Il y a des méthodes qui sont plus ou moins robustes en situation de crise de payer des impôts. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on parle de ça, et il faut en parler en réalité. Mais partir dans l'idée qu'on pourrait d'un coup de baguette magique supprimer tout cela sans conséquence, c'est de la folie.
Quels sont les secteurs où les ménages et les entreprises dont on parlait à l'instant risquent le plus de sentir le choc? Je ne sais pas, est-ce que c'est dans l'alimentation, le transport, l'industrie, l'électronique? Vous étiez venu déjà, Jacques Sapir, sur notre antenne à évoquer la guerre en Iran. C'était un plateau en direct avec d'autres intervenants. Et effectivement, vous insistiez beaucoup au-delà de la question pétrolière et gazière sur toutes sortes de composants qui risquaient de manquer cruellement au monde suite à cette guerre en Iran. Comment est-ce que vous sentez les choses? Là encore, on est dans la prospective totale, hein, d'autant qu'on ne sait même pas si cette trêve va durer ou pas.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les premiers touchés seront tous les gens qui sont liés au transport. Ça, c'est clair. Les transporteurs routiers, puis les artisans et commerçants qui ont besoin de se déplacer, puis les professions libérales qui, elles aussi, ont besoin de se déplacer beaucoup. Je pense par exemple aux infirmières rurales. Et pour qui ça devient vraiment extrêmement important. Bon. Dans un deuxième temps, et je pense qu'on va commencer, enfin, on doit commencer à le voir se manifester maintenant, l'agriculture. L'agriculture va être très touchée. D'abord, elle va être touchée parce qu'il faut bien transporter les produits agricoles. Deux,
Engrais.
parce que les engrais vont doubler de prix, peut-être plus. Trois, parce que les produits agricoles, il faut les emballer. Les emballages, on les fait avec quoi? Bah, du plastique. Et le plastique, on le fait avec quoi? De l'essence, enfin, du pétrole, plus précisément. Donc, on va avoir un choc induit sur l'agriculture, et puis on aura un choc sur l'industrie.
L'ammoniac, par exemple, qui passe.
Voilà, bah oui, le problème de l'ammoniac. 43% de l'ammoniac sortait du Golfe. 43%.
35% l'ammoniac, hein, depuis le début.
Ben oui, et ça va continuer. L'urée que l'on tire de l'ammoniac hein, quand on fait des engrais azotés. Vous savez, la chaîne, on fait d'abord de l'ammoniac, avec l'ammoniac, on fait l'urée, bon, et avec l'urée, on fait des engrais particuliers. Bien. Le prix de la tonne d'engrais a doublé à la Nouvelle-Orléans. Doublé.
Depuis un mois, c'est ça?
Oui, depuis un mois. depuis un mois. J'avais fait un premier papier il y a de ça à peu près 3 semaines et il avait augmenté de 60%. Là, il a tout simplement doublé. Bon, donc on aura ça et puis après, on aura l'industrie. Parce qu'il y a toute une série de produits dans l'industrie qui dépendent de produits chimiques. Donc, il faut bien voir que nous serons tous touchés, je dis bien tous, simplement on ne va pas être touchés en même temps. Donc, d'abord, les premiers qui seront touchés seront effectivement les gens qui sont liés au transport, puis les gens qui sont liés à l'agriculture, puis les gens qui sont liés à l'industrie. À un moment donné, tout ça va se combiner. Mais même, prenons par exemple les hôtels et les restaurants. Ben, ils risquent d'être touchés, je pense même qu'ils seront très certainement touchés, parce que quand on va avoir les prix du transport aérien qui vont monter peut-être de 40 ou de 50% en période d'été, ben, on n'aura plus nos 100 millions de touristes. C'est assez normal. Enfin, dans cette situation, ben, les gens vont se déplacer assez peu, enfin, sur 200.
Une contraction,
Ben,
je vois.
admettons qu'il y ait une contraction du tourisme. Bon, on est autour de 100 millions l'année dernière, on se retrouve autour de 70 millions. C'est une contraction qui est de l'ordre de celle de la crise Covid. Donc là aussi, donc on va avoir tout ce genre de problème en France, et puis après, et ça, on va l'avoir à partir du début d'automne, il y a la crise que connaissent les autres pays que nous allons sentir aussi. Parce que la France, elle exporte en Allemagne, elle exporte en Italie. Et si ces économies connaissent des contractions d'activité importantes, et on sait que l'Allemagne est particulièrement fragile par rapport au choc d'énergie, y a Natixis qui vient de faire une note. Là, ils enfoncent des portes ouvertes, je dois dire. Tout le monde sait que l'Allemagne est beaucoup plus fragile que la France. Mais ce n'est pas mauvais par ailleurs de le répéter. Mais ce qui va se passer.
Elle est plus fragile parce qu'elle est plus industrialisée aussi.
Et parce qu'elle.
On a perdu toutes nos industries et c'est aussi
Tout à
pour ça.
fait, tout à fait. Mais aussi, elle est plus fragile parce qu'elle n'a pas de nucléaire. Ce qui joue. Enfin,
Ce qui nous
c'est aussi
ramène
un.
à la guerre en Ukraine et on y reviendra à un
Tout
moment
à
donné.
fait. Bon. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la fin de l'été ou du début de l'automne, la baisse de demande en provenance de pays comme l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, etc., va aussi se faire sentir sur l'économie française. C'est ce qu'on appelle, bon, excusez de l'euphémisme, on adore ça, nous économistes, un effet de deuxième tour. Mais c'est très concret, ce qu'on appelle un effet de deuxième tour. Bon. Donc, moi, je m'attends à ce que, en fait, le pic de la crise, nous le sentions entre la fin de cette année et les 2 premiers trimestres de l'année prochaine.
S'il n'y a pas d'aggravation majeure,
Oui,
évidemment.
voilà.
En mettant les choses au mieux.
En
En
mettant les
mettant les
choses au
choses au mieux.
mieux. En mettant les choses au
Jacques, mieux.
dans la suite de l'analyse que vous menez, il y a une question de Marc. Et comment s'en sortent économiquement les États-Unis? Est-ce que l'électorat MAGA subit les conséquences économiques de la guerre lancée par Trump? Est-ce qu'aux États-Unis, il y a déjà ça? Et évidemment, ça aussi, ça pèse bien sûr sur Trump.
Tout à fait. Avant, je voudrais simplement revenir sur une question à laquelle
Oui,
je n'ai pas répondu.
d'accord.
C'est la question du basculement vers le yuan.
Oui.
Oui, ce qu'ont mis en place les Iraniens va jouer vers cela. C'est une accélération très nette de la dédollarisation de l'économie. Et en fait, on voit bien que, d'ailleurs, la banque centrale, la Bundesbank, hein, la banque centrale d'Allemagne, parle désormais de la naissance et du développement d'un pétro-yuan qui remplacerait le pétrodollar. Or, le pétrodollar avait un rôle absolument clé, justement, dans le système financier américain. Et donc, pour le dire rapidement,
Pardonnez-moi, Jacques, quel pourrait être, ça c'est vraiment crucial pour les États-Unis, on le sait tous, quel pourrait être le levier pour Trump pour empêcher ça maintenant?
il en a très peu.
Oui.
Il en a très peu. Il en a très peu. Et on voit là ce qui est en train de se passer. C'est un, une démondialisation. On est dans le monde post-mondialisation. Et désormais, les échanges commerciaux se font en bilatéraux ou en petits groupes et ne se font plus à l'échelle mondiale. Premier point. Deux, on est dans un monde définanciarisé, où en voie rapide de définanciarisation, tout le monde a compris que ce qui est important, ce sont les produits réels, ce n'est pas toute l'architecture financière qui est construite autour. Et trois, nous allons être dans un monde dédollarisé. Et cette fois-ci, beaucoup plus vite que je ne le pensais, si vous voulez. Cette crise, et en particulier l'action des Iraniens, aura comme effet de vraiment d'accélérer de manière importante la dédollarisation. Alors maintenant, je reviens sur les
Oui, la
États-Unis.
question MAGA, voilà la question.
Oui, bah oui, ils sentent le choc. Ils sentent déjà le choc. Alors, ils sentent le choc sur le carburant. Bon.
Oui, ils n'ont pas l'effet d'amortisseur.
Voilà, parce qu'ils n'ont pas d'impôt dessus. Alors très bien, 99% des cas, ils disent, ouais, c'est génial, on paye notre carburant tellement moins cher que vous, pauvres Européens. Oui, sauf que quand il y a une crise comme celle d'aujourd'hui, bah, ils se prennent dans les dents toute la violence du choc. Deuxième point, les agriculteurs, les fermiers souffrent déjà. Et les fermiers, c'est les grandes plaines. C'est typiquement... un électorat
L'électorat.
MAGA. Alors les fermiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont augmenter les prix ou alors ils vont cesser de produire du maïs parce que le maïs, c'est un gros consommateur d'engrais azotés et ils vont planter du soja. Oui, mais le soja n'est pas entièrement substituable au maïs. On peut, il y a des éléments de substitution, c'est très vrai, mais... Il y a toute une série de tâches pour lesquelles ce n'est pas substituable. Et il faut quand même dire que le soja, il sert essentiellement à nourrir le bétail. On va avoir un problème là. Et puis, après, il y a un problème gigantesque dont personne ne parle, c'est que les Chinois, pour l'instant, font un rationnement très strict des terres rares. Alors on va dire, oui, les États-Unis produisent eux-mêmes leurs terres rares. C'est vrai, mais ils ne raffinent pas. Il y a zéro raffinage aux États-Unis. Donc même les terres rares qu'ils produisent, ils sont obligés de les envoyer en Chine pour se faire raffiner. Vous voyez? Donc,
97% du marché mondial, j'avais vu
tout à
ça.
fait, tout à fait. Et
Voilà.
là, il faut quand même le dire, la Chine, elle est en position de monopole.
Ouais.
Et ça va avoir des effets économiques sur les États-Unis, ils vont être importants.
Ouais, il faut regarder Bayanobo, c'est monstrueux, c'est 70%, je crois, des terres rares mondiales.
Tout à
Les
fait.
gens ne mesurent pas très bien tout ça. Ouais.
Tout à fait. Tout à fait.
Pour revenir à notre France. Qu'est-ce que vous pensez, Jacques Sapir, des mesures prises par notre gouvernement depuis cette semaine? Il y en a très peu.
Le
Peut-être les
crédit
plus.
flash.
Voilà. Je le disais tout à l'heure, j'ai écouté le ministre de l'économie hein, ce matin en direct sur France Inter qui expliquait que oui, effectivement, il nous manquait des millions de barils, mais que tout allait se réguler. Et que non, il n'était pas question de plafonner quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous pensez de voilà, cette politique?
Très clairement, elle n'est pas à la hauteur de la situation, en termes polis. Ce n'est pas à la hauteur de la situation. Il faudrait d'ores et déjà prévoir des situations d'urgence, prévoir des stocks de matières premières, d'engrais, etc. Il faut se donner les moyens d'assurer la continuité de la production. Voilà, ça devrait être ça la première tâche du gouvernement. Et la deuxième tâche du gouvernement, c'est évidemment de pouvoir protéger dans la mesure du possible. Et je ne pense pas qu'on pourra complètement protéger la population. De pouvoir protéger la population en faisant des choix. Est-ce que l'on choisit la production ou les ménages? C'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Moi, j'ai tendance à penser que jusqu'à un certain point, les ménages français peuvent encore payer une partie du prix par l'inflation que provoquera cette crise, mais que par contre, ce sont les entreprises et en particulier les petites et moyennes entreprises qui doivent être absolument protégées. Après, je suis tout à fait conscient qu'on peut ne pas partager cet avis, qu'on peut dire non, au contraire, à cause des situations en termes de conditions de vie, ce sont les ménages qu'il faut absolument protéger. Mais je dis qu'il faut au moins poser la question de se dire, on n'arrivera pas à protéger tout le monde. Ça, c'est absolument clair. Il faudra donc faire des choix. Troisième point, il faut savoir que nous allons connaître un choc inflationniste important. De ce point de vue-là, je dois dire que je suis.
Pardonnez-moi, Jacques Sapir, je pense que ça préoccupe beaucoup de gens. On est sur quel calendrier là encore? Quand vous parlez de
On
choc inflationniste.
est sur un taux d'inflation qui devrait atteindre 4% d'ici la fin de l'année et qui pourrait monter dans le premier semestre de 2027 à 5 ou 6, à 5 ou 6%. Voilà.
Socialement, et quelles conséquences?
Alors, tout dépend après, est-ce que le
Je
gouvernement.
rappelle qu'on sera en pleine présidentielle.
Tout à fait. Tout à fait, oui. Non, mais c'est. J'en ai conscience aussi.
Il y a un alignement des planètes.
Oui.
Ouais.
On peut décider, le gouvernement peut décider qu'il va protéger certaines catégories de Français. Oui. Mais s'il le décide, il doit y penser très vite. Et il doit annoncer ce qu'il va faire très vite. Pourquoi? Parce que l'anticipation d'inflation, si elle n'est pas d'une certaine manière encadrée par des décisions de l'État, si l'État dit oui, on va connaître une hausse d'inflation, mais on fera en sorte que telle et telle couche sociale soit relativement épargnée, à ce moment-là, tout le monde va paniquer et l'effet de panique risque d'accroître le choc inflationniste. Donc c'est pour ça que on a besoin à la fois d'un État et d'un gouvernement, tout simplement, qui commence à préparer la France à subir ce choc, qui dise la vérité aux Français, parce que ce n'est qu'à travers un discours de vérité qu'on pourra, d'une certaine manière, stabiliser les anticipations qui vont se constituer et leur empêcher de devenir complètement folles. Le problème, c'est que si on ne le fait pas, si on attend que ces anticipations commencent à exploser dans tous les sens, ça coûtera infiniment plus cher pour protéger les gens. Donc c'est pour ça que je dis que l'attitude actuelle du gouvernement, elle est non seulement stupide, elle est surtout dangereuse. Et ça, il faut en avoir confiance. De même, un certain nombre de mes collègues économistes, comme David Kella, ont tendance à avoir une vision beaucoup trop optimiste de la situation. J'ai lu un texte de. Enfin, oui, c'était un tweet que David a posté. Lui, il dit, mais non, il y a finalement assez peu dans la consommation française qui est liée au pétrole. Non. En réalité, pratiquement tout est lié au pétrole. Évidemment, pas de manière directe. Mais je pense qu'il n'a pas conscience de cela, et c'est pour ça qu'il est, à mon avis, beaucoup trop optimiste.
Pour entrer un petit peu dans le concret de ce que vous anticipez à ce sujet, vous parlez de catégories de Français qui devraient être protégés, particulièrement dans cette situation d'inflation très importante qui s'annonce, si je vous entends bien. Qui pourrait commencer donc à l'automne prochain et se poursuivre lors du premier trimestre 2027, c'est-à-dire pendant la présidentielle. Vous pensez à quoi exactement comme scénario possible, compte tenu de ce qu'on a comme gouvernement, à savoir un gouvernement bon, nommé par Macron, en grande partie illégitime aux yeux de catégories importantes de la population, quel que soit leur bord politique, et dans une espèce de comme ça de pouvoir français relativement impuissant, impotent et dans l'expectative en fait du résultat 2027.
Bah, Le fond du problème, c'est pas que ce gouvernement ait été nommé par Macron. Je vais vous dire, à la limite, je m'en fiche. S'il était nommé par Tartempion ou autre, c'est pas le problème. Le problème, c'est que ce ne sont pas des gens compétents. C'est ça le problème. Et ça, c'est le problème peut-être le plus important. Alors, si on a un gouvernement qui se contente de boucher les trous, hein, de mettre les doigts dans la coque du bateau chaque fois qu'il y a une voie d'eau, hein. Comme disait la métaphore, ah tiens, il y a une voie d'eau là, vite, je mets mon doigt là, bien après, on se retrouve bloqué avec tous les doigts. Bien. Ça risque effectivement de partir en vrille d'ici la fin de l'année. Moi, ce que...
Concrètement, Jacques, quand vous parlez de partir en vrille, vous pensez à quoi?
Bah, c'est-à-dire qu'on va se retrouver...
Scénario, des scénarios possibles.
On va se retrouver avec une majorité de la population qui va être obligée de réduire sa consommation de biens manufacturés de manière importante parce qu'il va se trouver, elle va se trouver prise entre l'inflation et les coûts de transport. Bon. On va se trouver avec une crise majeure dans l'agriculture si on ne vient pas d'emblée et immédiatement en aide à l'agriculture. Donc, on peut avoir la conjonction de plusieurs mouvements sociaux. Un mouvement social de type gilet jaune, je ne dis pas exactement les gilets jaunes, un mouvement social de type gilet jaune à cause des prix du carburant.
Oui.
À nouveau, un mouvement chez les agriculteurs, extrêmement important. Comme il y aura du chômage, parce que cette crise ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'activité économique. Les entreprises seront obligées de réduire fortement la voilure. Eh bien, des mouvements localisés de révolte liés au chômage, tout ça se passant entre fin novembre, début décembre et fin février. Le timing politique est superbe, si vous
Il
voulez.
accentuera d'ailleurs le problème,
Bien sûr, mais
puisque
bien sûr.
chacun va flatter sa clientèle électorale, va donner évidemment des gages
Exactement, exactement,
sans
exactement.
réfléchir à l'intérêt général.
Exactement. Et c'est pour cela que je dis, c'est maintenant. Bon, on a déjà pris, à mon avis, 2 à 3 semaines de retard. Mais c'est encore rattrapable maintenant. Mais si on ne fait rien, si on se contente à mettre des rustines chaque fois qu'il y a une voie d'eau, eh bien, je pense que tout ça, ça va nous péter à la gueule, pardon pour l'expression, fin de l'été, début de l'automne.
Et je vous confirme que personne n'en parle ni au gouvernement, ni sur les antennes, sur les chaînes d'infos, etc. Nulle part. On n'en entend pas parler.
Oui, si vous voulez. Il y a quelque chose d'absolument surréaliste, mais pas dans le bon sens du terme. Voilà, on est face à ce qui constituera, d'après le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, comme la plus grave crise de l'énergie depuis 1973, depuis le choc pétrolier. Et il l'a dit lui-même, il ne faut pas oublier que nos économies sont aujourd'hui beaucoup plus dépendantes du pétrole. Qu'elle ne l'était dans les années 70. Bien. Et ce dont on parle dans la presse, Monsieur Bardella serait en couple avec une héritière du royaume des deux Siciles, de la maison d'Italie.
Donc, beaucoup de gens découvrent l'existence.
Voilà. Alors bon, oui, il y a toujours eu un public hein, pour aimer ce genre d'histoire. Mais enfin,
Qui n'était
c'est
pas forcément
sérieux.
recruté chez les ouvriers et les employés, quand même.
Voilà, oui.
Ouais.
Encore que l'attrait pour les grands de ce monde et les faits divers, ça caractérise aussi beaucoup un certain type de lectorat.
Je trouve que très franchement, je me demande qu'en pense l'électorat historique du Rassemblement national aujourd'hui. J'ai des
J'avoue
gros doutes.
pas être
Avec le gasoil à 2,40.
exactement dans
Là,
cette
j'ai
circonscription.
vraiment des gros doutes.
Moi, là,
Oui.
je ne sais pas si ce conte de fées va être acheté à
Oui,
six
tout à fait, tout à fait. Bon, mais le fait que une partie de la presse ne parle que de ça, au lieu au moins de commencer à tirer la sonnette d'alarme, et de dire au gouvernement, écoutez, mesdames et messieurs, il faudrait un petit peu vous secouer, parce que la vague qui nous arrive dessus, elle est d'une ampleur plus qu'inusitée. Et ça, je pense que malheureusement, ça en dit long sur ce beau pays qui est le mien.
Avec un déni de réalité, parce que
Tout à fait.
les
Tout à
destructions
fait.
sont là, c'est-à-dire que ce qui est détruit, c'est ce qu'il faut bien comprendre dans ce que dit Jacques, hein, c'est que les destructions sont là. En fait, ça, c'est du réel. Et ça, on n'en parle pas, comme si ces destructions, du jour au lendemain, par un effet spéculatif, tout d'un coup, on pouvait avoir à nouveau un gasoil à 1,5, 1,6, que ça allait
Tout à
revenir
fait.
comme ça. C'est fou.
Tout à fait, tout à fait.
Peut-être pour boucler sur la situation internationale induite par cette guerre en Iran et surtout par le détour désastreux qu'elle est en train de prendre pour les États-Unis, quelles seront les conséquences à vos yeux, au-delà de la question française, sur la puissance américaine? Il s'agit quand même d'un désastre qui ne nous surprend pas ici sur cette antenne, je dois dire, hein, parce qu'on sait quoi penser des interventions américaines au Moyen-Orient depuis des dizaines d'années, mais le fait est là, et surtout pour les économies européennes, au-delà des Américains, pour nous qui sommes leurs vassaux, malheureusement, nous le regrettons ici sur cette antenne, mais c'est bien le cas. Quelles seront les conséquences de ce désastre, sachant que nous venons déjà de prendre le choc de la guerre en Ukraine, dont une des conséquences majeures, et évidemment c'est une de celles que vous avez documentées, vous, Jacques Sapir, est que les États-Unis ont coupé les Européens, les Allemands et les Français de l'énergie russe bon marché. Donald Trump l'a finalement quasiment avoué peu de temps après son élection. C'est bien, en tout cas, les Américains et leurs alliés qui ont fait sauter Nord Stream et qui en avaient le projet depuis longtemps en réalité. Comment nos industries qui étaient déjà si faibles vont sortir de cette séquence?
Ah, si vous voulez, le premier point qu'il faut dire, c'est bon, on peut se dire la situation est épouvantable, ce qu'elle est. On peut dire on est dans une situation désastreuse parce que justement nous nous sommes largement désindustrialisés et nous avons en partie détruit notre secteur nucléaire. Bon, mais ça ne fait pas avancer les choses. Moi, je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est se dire, voilà, nous sommes dans une très mauvaise situation. Oui, il faut le reconnaître. Après, nous n'avons pas des destructions sur notre territoire. Il faut quand même ne pas l'oublier non plus. Autrement dit, notre situation, pour mauvaise qu'elle soit, nous avons toujours un appareil productif qui existe et qui peut même se développer dans les années qui viennent. Donc, je pense qu'il faudrait refaire un vrai plan, non pas le commissariat au plan qui existe actuellement, qui est en réalité, je dirais, un espèce d'EHPAD pour hommes politiques vieillissants. Bon, un vrai commissariat au plan. Il ne faut pas beaucoup de monde d'ailleurs. Je rappelle que quand le CGP fut créé en 1946,
CGP, pardon.
Le commissariat général au plan. Pardon, excusez-moi, oui, je parle d'administratif parce que j'ai à un moment donné, j'ai travaillé pour le commissariat général au plan. Bon, quand il a été créé, 20 personnes à temps plein, 35 personnes à mi-temps, 55, et c'est tout. Aujourd'hui, pour ne rien faire, ils sont 120. Donc, si vous voulez.
Avec Bayrou qui appuie en plus.
Tout à fait. Non, c'est plus Bayrou, hein.
Non, je sais, mais
C'est
il
François Beaune qui, par ailleurs, tient des propos assez intéressants, je dois dire, qui m'étonnent de lui, mais je suis assez bien étonné, donc pourquoi pas, mais qui n'a aucun pouvoir. il faut relancer une planification et il faut repartir dans un projet réel de reconstruction de l'économie française, parce que sinon, il ne restera plus grand-chose à reconstruire d'ici quelques années. Donc oui, ça serait d'abord une chose qu'on devrait faire, c'est pas qu'on pourrait faire, mais qu'on devrait faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me semble aussi extrêmement important, c'est de cesser de rester dans le déni. Bon, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont des gens adultes. Ils peuvent avoir plein de défauts, on peut avoir plein de défauts, je peux avoir plein de défauts, ce n'est pas le problème. Mais nous méritons la vérité. Et aujourd'hui, ce n'est pas sur la question financière qu'on ne raconte pas la vérité. Hein? En fait, cette question financière, elle va devenir très rapidement secondaire, que ce soit la question de la dette ou la question du déficit. Mais c'est sur la question de l'état réel de l'économie et du choc qui nous attend. Nous avons droit à la vérité et nous y avons droit tout de suite. Et non seulement pour des raisons morales, que je suis tout à fait prêt à admettre, même si ce n'est pas mon, je dirais, c'est pas mon domaine, je ne parle pas de morale, je parle d'économie. Mais parce que ça sera utile en matière d'efficacité économique. Et c'est pour ça qu'on en a aussi besoin. Bon.
Et aussi sur la réalité, et la réalité géopolitique, et des
Tout
réalités
à
des
fait.
rapports de force. Il y a une question, je rebondis hein, sur ce que vous venez de dire, Jacques, une question de Bédide. Je donne sa question. Les exemples de la Russie et de l'Iran ne sont-ils pas en train de montrer que les sanctions économiques contre les pays du Sud n'ont rien fait que les renforcer économiquement? Parce qu'en fait, c'est aussi ça que ça pose, cette question aujourd'hui.
Alors, pour la Russie, oui. Pour l'Iran, c'est beaucoup plus discutable.
Oui, à cause des destructions.
D'abord, et puis surtout, parce qu'il faut quand même savoir, l'Iran n'était pas au niveau de la
Oui,
Russie
bien sûr.
quand les sanctions ont commencé à être
C'est pas un
prises.
et d'égalité, hein, je pense pas dans la question.
Tout à fait. Mais pour la Russie, oui, c'est vrai. Et la Russie, d'ailleurs, nous fournit un exemple de comment on peut relancer son industrie. Par différentes mesures. Il y a eu beaucoup de mesures d'État, hein, il faut le dire, mais il n'y a pas eu que des mesures d'État. Il y a eu aussi je dirais, une activité extrêmement productive des petites et moyennes entreprises, bon, en sachant que ce qu'on appelle une moyenne entreprise en Russie, ce n'est pas ce qu'on appelle une moyenne entreprise en France, c'est jusqu'à 1 000 salariés. Donc, vous voyez, nous, on classerait ça plutôt dans les grandes entreprises, dans la partie basse des grandes entreprises. Bon, okay. C'est un détail. Bon, oui, ils ont fait des choses, et ils ont fait des choses qui sont extrêmement intéressantes, même s'ils ont aussi beaucoup fait de militaire, ça, il faut pas s'en cacher. Mais dans la période de grande croissance qu'ils ont connue en 2023 et 2024, la part militaire de l'industrie ne représentait que 40% de la croissance. 60%, c'était la part civile. Donc voilà, c'est quelque chose qui est effectivement extrêmement intéressant. Plus globalement, nous sommes en train de basculer dans un monde dans lequel la Chine et son allié, la Russie, mais je dis d'abord la Chine, va être aujourd'hui de plus en plus dominante. Ce que l'on appelle l'Occident global va commencer à baisser de manière très forte. Il avait déjà baissé de manière très forte. Il faut savoir que la Chine a dépassé économiquement les États-Unis en 2017. Si on calcule les PIB en parité de pouvoir d'achat, c'est 2017, hein, en réalité la date du retournement. Mais là, maintenant, elle est tout à fait évidente et elle se développe de plus en plus. Le problème, c'est comment les États-Unis vont gérer leur décroissance et leur perte de pouvoir politique. Et de ce point de vue-là, il y a des analystes américains et des gens qui travaillent à l'Université de Chicago, hein, au département de sciences politiques, qui ont fait ce parallèle entre l'opération Epic Fury, donc cette guerre contre l'Iran, et l'affaire de Suez pour la France et la Grande-Bretagne. Et ils ont dit, c'est le moment où la France et la Grande-Bretagne ont compris qu'elles ne faisaient plus partie des dirigeants.
C'est là le
Plus.
moment de la grande castration, quoi.
Voilà, c'est à ce moment-là. Bon, et c'est ce que sont en train de vivre les États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que les États-Unis vont s'effondrer du jour au lendemain. Ils conservent malgré tout une capacité militaire qui reste considérable, hein, bien. Mais aujourd'hui, ils vont devoir gérer cette forme de repli et surtout ce nouveau type de relation avec les pays. Parce que ce qui est en train de se passer dans le Golfe, faut pas croire que ça n'a pas d'impact sur les autres pays du Golfe, qui ont de moins en moins confiance dans les États-Unis. Faut pas croire que ça n'ait pas un impact sur les pays d'Asie. D'ailleurs, le voyage en Chine populaire de la dirigeante du Kuomintang, bon, qui est le grand parti d'opposition à Taïwan, c'est pas un hasard. Il y a, je crois, 24 heures ou un peu plus, une rencontre entre qui, hein, Rocketman, comme l'appelle Donald Trump, et son homologue de la Corée du Sud. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud se dit, il est temps de devenir adulte, les États-Unis se contrefichent de nous, ben, il faut peut-être mieux discuter avec nos frères du Nord, même si on peut avoir plein de problèmes avec eux, que de continuer à vouloir dépendre des États-Unis. Le Japon vient de signer un accord avec la Russie, le Japon qui, théoriquement, applique les sanctions, vient de signer un énorme accord avec la Russie pour l'aluminium, parce que justement, on ne produit plus d'aluminium dans le Golfe. Donc, il est en train de se produire toute une série de changements. Et ça, il va falloir que les États-Unis trouvent des solutions pour le gérer. Alors, ils peuvent tenter de le gérer par une forme d'autarcie. Et c'est ça, en réalité, le projet de Trump sur le Groenland, le Canada,
C'est le
voire,
Venezuela.
tout à fait, voire sa descente vers le nord de l'Amérique latine. Bon, Venezuela, Colombie, grosso modo les alentours du détroit de Panama, enfin du canal de Panama. Bon, c'est ça. Et une autre possibilité pourrait être de se dire, ben, ayons un autre rapport au monde que le rapport que nous avions quand nous étions surpuissants. Tentons plutôt de parler que de contraindre. Ça demande une autre élite politique, clairement.
Je pense que ce sera certainement un autre président des États-Unis qui pourra
Ou une
accomplir,
présidente.
ou une présidente. Voilà. Mais certainement pas Donald Trump.
Non, pour
Non,
ça.
non, non.
Pour...
Ah, peut-être.
Non, j'étais juste une petite question un peu pour revenir quand même à la situation en France. Est-ce que dans ce cadre-là, très rapidement, Jacques, le projet France 2030, les 54 milliards, etc., la relocalisation, enfin, est-ce que ça c'est à la hauteur ou pas du tout finalement? Ou est-ce qu'on est là très très loin en fait du tableau assez dur quand même qui est dépeint là?
Alors, avant la guerre, c'était déjà très nettement insuffisant. Il aurait fallu le double. Pas 54 milliards, mais entre 90 et 100 milliards au minimum. Bon, enfin, ça, il faut le savoir. Donc, on n'a jamais mis les moyens nécessaires. Aujourd'hui, du fait du choc qui va être issu de la guerre dans le Golfe, très clairement, il faut penser non seulement à des objectifs de relocalisation, mais il faut penser beaucoup plus globalement comment est-ce qu'on reconstitue des chaînes internationales de production qui soient des chaînes sûres et à un coût qui ne soit pas non plus absolument astronomique. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver des alliances. Mais le problème, c'est que l'Union européenne nous interdit de choisir ces alliances. Dans l'Union européenne, c'est où on fait tout à 27, où on ne fait rien. Et donc ça, c'est une question qui devra être résolue très vite, même si par ailleurs, je pense que l'une des conséquences de cette crise, pourrait être un très fort affaiblissement de l'Union européenne, voire un éclatement. Et on le voit déjà, par exemple, l'attitude de certains pays. Alors, on parle beaucoup de la Hongrie, de la Slovaquie, d'accord. Mais regardez comment se comporte l'Italie. L'Italie est en train, d'une certaine manière, de faire entendre sa musique en Europe. Et cette musique n'est pas la musique de Madame von der Leyen. Nous sommes plutôt dans du bel canto que, je dirais, dans de la chanson bavaroise, pour dire les choses un peu métaphoriquement. Mais souvenez-vous aussi, l'Italie a été, et elle est toujours d'ailleurs, formellement, un des pays les plus atlantiques de l'Union européenne. C'est ce pays qui a interdit son survol aux États-Unis. Ce qui avait été fait aussi par l'Espagne, et ce que la France n'a pas eu le courage de faire. Donc attention, non seulement il se passe des choses dans le grand monde, mais même dans notre petit monde, hein, dans notre petit bain européen, il se passe des reconfigurations qui sont potentiellement importantes.
Merci.
Merci à vous.
Merci
Merci beaucoup.
beaucoup, Jacques Sapir, pour cette discussion extrêmement dense,
Extrêmement dense, extrêmement précise et je pense
extrêmement
voilà,
importante,
qui a pointé des réalités qu'il faut entendre.
qui a pointé des réalités qu'on n'entend pas sur les grandes chaînes d'information ou toutes sortes d'experts. Père du détroit d'Ormuz, de géographe
Les Ormousiens.
et de
Oui.
militaire s'improvise, mais où on n'entend pas parler de la crise économique et de l'inflation massive qui arrive pour les Français en pleine présidentielle avec des enjeux vitaux pour notre pays. Merci de les avoir fait vivre et nourris ce soir de façon extrêmement informée, chiffrée et passionnante.
Avec Maria Carolina des Deux Siciles en cherry on the cake.
Oui. Après, j'ai rien contre elle. Si vous voulez, c'est pas le problème. Je dis simplement, ça restera un exemple de la déconnexion d'une partie de la presse française. Qu'elle parle de cela alors qu'elle ne parle pas de l'important, c'est quand même énorme. Je dois dire, c'est.
On verra s'ils arrivent à tenir sur cette ligne
J'ai des doutes, j'ai des
longtemps.
doutes.
Oui, mais ce n'est pas le problème. Que eux veulent tenir, bon, ça peut se comprendre politiquement, mais ce n'est pas ça le problème. Et c'est que les journalistes croient que c'est ce qu'attendent les gens, alors qu'ils attendent quelque chose de tout à fait
C'est ça.
différent. C'est surtout ça qui est absolument stupéfiant.
Ouais, je ne sais pas si les journalistes pensent encore à ce que veulent les gens, les Français. En tout cas,
Bon.
ils pensent à ce que veulent leurs actionnaires, ça c'est sûr.
Tout à fait. Ah, mais de toutes les manières, pense-t-il encore? Mais ça, c'est un autre problème.
C'est plus important pour eux. Merci beaucoup,
Merci
j'accepte.
encore, Jacques.
Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.
À bientôt
À
sur
bientôt.
l'antenne de QG. Et à bientôt, Harold, pour un nouveau quartier populaire dans 15 jours, je pense. Hein, c'est notre
C'est le
rythme.
rythme.
Et je remercie bien sûr ceux qui étaient avec nous ce soir sur les réseaux sociaux, à savoir Maxime Asseo et Antoine Biraud. Merci aussi à tous ceux qui ont participé dans le chat, qui nous ont posé des questions. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous rappelle bien sûr que QG est un média indépendant. Le financement est bien sûr le nerf de la guerre. Je vous invite à vous abonner, à nous découvrir et à nous soutenir dès ce soir sur QG.media. Bonne fin de soirée et bonne nuit.